Bulwer Lytton, Les derniers jours de Pompéi, livre 5e, chapitre 1, Le songe d'Arbacès, une visite et un avertissement pour l'Égyptien. La nuit redoutable qui précédait les jeux féroces de l'amphithéâtre s'écoula lentement, et l'on vit luire enfin le premier rayon du dernier jour de Pompéi. L'air était prodigieusement calme et pesant. Un brouillard transparent et lourd étendait sur les vallées et dans les ravins des vastes champs de la compagnie. Le pêcheur matinal remarqua avec surprise qu'en dépit de l'excessive tranquillité de l'atmosphère, les vagues de la mer étaient agitées et qu'elles paraissaient s'éloigner du rivage d'une façon désordonnée, tandis que le bleu et majestueux Sarnus, dont le voyageur cherche en vain à découvrir maintenant l'ancien lit large et profond, faisait entendre un sourd et triste murmure en baignant les plaines riantes des belles maisons de plaisance des citoyens opulents. Au-dessus du brouillard descendu très bas, on voyait s'élever les tours de la ville antique, usées par le temps, les toits en tuiles rouges des rues, les colonnes solennelles de plusieurs temples, les portes couronnées de statues du forum et l'arc de triomphe. Dans le lointain, les contours des montagnes se dégageaient des vapeurs qui les entouraient et se mêlaient aux changeantes couleurs que les cieux revêtent le matin. Le nuage, qui s'était si longtemps appesanti sur la crête du Vésuve, se dissipa soudain, et le sommet élevé et nu du mont Sourcilleux sembla sourire aux belles campagnes qu'il dominait. Les portes de la cité avaient été ouvertes de très bonne heure. Des cavaliers et des équipages de toute espèce passaient rapidement. Les voix de nombreux groupes de piétons en habits de fête se faisaient joyeusement entendre. L'attente du plaisir animait tous les regards, et les rues se remplissaient d'habitants et d'étrangers accourus des environs populeux de Pompéi. Des flots de personnes se hâtaient de venir confusément, à grand bruit, dans ce fatal amphithéâtre. Quoiqu'il fût d'une grandeur disproportionnée avec l'étendue de la ville, et disposé en quelque sorte pour en contenir toute la population, il y avait dans les circonstances extraordinaires un si grand concours d'étrangers affluant de toutes les parties de la compagnie, que l'espace situé devant la reine demeura pendant quelques heures avant le commencement des jeux, rempli d'une foule d'individus qui n'avaient pas droit par leur rang à ces places privilégiées. L'extrême curiosité que le procès et la sentence de deux criminels si remarquables avaient occasionnée augmentait ce jour-là la foule d'une façon vraiment prodigieuse. Pendant que le commun peuple, avec la véhémente gaieté du caractère compagnien, se poussait, s'agitait, se démenait, et gardait néanmoins, au milieu de ses empressements, comme cela se voit encore dans les réunions des Italiens, un ordre parfait et une bonne humeur ennemie de toute querelle. Arbacès recevait une étrange visite dans sa maison solitaire. À la vue de son costume primitif et bizarre, de sa démarche et de ses gestes sauvages, les passants qui avaient rencontré cette créature singulière s'étaient fait des signes les uns aux autres et avaient souri. Mais dès que son regard était tombé sur eux, toute gaieté avait passé, car sa face ressemblait à celle de la mort. Son air sombre, son costume qui n'avait rien du monde habituel, lui donnait l'air d'une personne longtemps ensevelie et qui s'est relevée du tombeau pour rentrer parmi les vivants. Chaque groupe, bientôt saisi d'effroi, s'écartait pour la laisser passer, et elle arriva promptement à la large porte du palais de l'Égyptien. Le noir portier, comme les autres, réveillé de grand matin, était à sa porte. Il tressaillit en la voyant. Le sommeil de l'Égyptien avait été cette nuit plus profond que d'habitude, mais aux approches de l'aurore, il avait été troublé par des songes bizarres et inquiétants qui lui causèrent d'autant plus d'impression qu'il semblait coloré du reflet de sa philosophie particulière. Il rêva qu'il était transporté dans les entrailles de la terre, qui se trouvait seul dans une vaste caverne soutenue par d'énormes colonnes taillées dans le roc, brutes et primitives, lesquelles, en s'élevant, se perdaient dans l'obscurité où les rayons du jour n'avaient jamais pénétré. Que, dans les intervalles de ces colonnes, des roues ne cessaient de tourner avec un bruit pareil au flot de la mer. À droite et à gauche seulement, cet espace était vide, et là se présentaient de vastes galeries, faiblement éclairées par des feux errants, semblables à des météores qui tantôt rampaient à l'instar de serpents le long du sol humide, et tantôt dansaient dans les airs d'une manière folle, disparaissant tout à coup et se rencontrant ensuite avec un éclat beaucoup plus vif. Tandis qu'Arbacès contemplait avec étonnement la galerie placée à sa gauche, des formes légères et aériennes y passèrent lentement, et quand elles eurent atteint la grande salle, se dissipèrent en montant comme la fumée. Il se retourna, saisi de crainte, vers le côté opposé. Il y vit venir doucement, du fond des ténèbres, des ombres pareilles qui descendaient dans la galerie à sa droite, comme entraînées par le flux d'un invisible courant. La figure de ces spectres était plus distincte que celle qu'ils avaient vue auparavant. Les uns avaient un air de joie, les autres un air de douleur. Quelques-unes exprimaient l'attente et l'espérance, d'autres l'effroi et l'horreur. Elles passaient rapidement et sans cesse devant ses yeux éblouis par cette succession d'êtres divers qu'une force supérieure paraissait pousser en avant. Arbacès se détourna. Au fond de la salle, il aperçut alors la forme puissante d'une géante assise sur un monceau de crâne, et dont les mains étaient occupées à un métier placé dans l'ombre, qui communiquait avec les nombreuses roues dont nous avons parlé, et semblait diriger tout son mécanisme. Il sentit ses pieds s'avancer par une force secrète vers cette femme, et se trouva bientôt face à face avec elle. La physionomie de la géante était calme, solennelle et d'une sérénité imposante. On eût dit la figure de quelque colossale sculpture des sphinx de son pays. Aucune passion, aucune émotion humaine ne troublait son large front sans rides. On n'y découvrait ni tristesse, ni joie, ni souvenir, ni espérance. Il était dépourvu de tout ce qui peut sympathiser avec le cœur humain. Le mystère des mystères reposait sur sa beauté. Il inspirait le respect plutôt que l'effroi. C'était l'incarnation du sublime. Arbacès, sans avoir envie de parler, entendit sa propre voix demander à cette femme « Qui es-tu et que fais-tu ?»« Je suis... » répondit le grand fantôme sans se déranger de son travail. « Je suis celle que la science a reconnue. Mon nom est la nature. Tu vois ici les nuages du roi du monde et ma main les guide pour entretenir la vie de toutes choses. » « Et quelles sont, dit la voix d'Arbacès, ces galeries qui, illuminées d'une manière si étrange et si incertaine, se perdent de chaque côté dans les abîmes des ténèbres ?»« Celle que tu vois à gauche, répondit la mer géante, est la galerie des êtres qui ne sont pas encore nés. Les âmes qui voltigent les premières et qui montent sont celles qui sortent du sein éternel de la création pour accomplir leur pèlerinage sur la terre. Et la galerie que tu vois à droite, où ces ombres descendent d'en haut, se dirigeant vers les rayons obscurs et inconnus, est la galerie de la mort. Et pourquoi, reprit la voix d'Arbacès, Pourquoi ces lumières errantes qui traversent l'obscurité, mais qui la traversent seulement sans la dissiper? Sombre artisan de la science humaine, contemplateur d'étoiles, toi qui veux déchiffrer l'énigme des cœurs et l'origine des choses, ces lueurs, mais ce sont les faibles lumières de la science accordées à la nature, afin qu'elle puisse accomplir son œuvre et distinguer assez le passé et l'avenir pour mettre quelque prévoyance dans ses desseins. Juge donc, pauvre marionnette que tu es, de la lumière qui peut être réservée pour toi. » Barbacès se sentit trembler en demandant de nouveau « Mais pourquoi suis-je ici ?»« Pour obéir au pressentiment de ton âme, à la prescience de ton sort qui s'accomplit, pour voir l'ombre de ta destinée qui va s'élancer de la terre dans l'éternité. » Avant de pouvoir répondre, Arbacès sentit s'élever dans la caverne un vent semblable à celui que produiraient les ailes d'un dieu gigantesque. Soulevé de terre et emporté par un tourbillon comme une feuille par un ouragan d'automne, il se vit au milieu des spectres de la mort et poussé avec eux dans l'obscurité. Dans son vain et impuissant désespoir, il essayait de lutter contre l'impulsion. Il lui sembla alors que le vent, prenant un corps, devenait une espèce de fantôme avec les ailes et les serres d'un aigle, dont les membres flottaient au loin et vaguement dans l'air, et dont les yeux, qu'il distinguait plus clairement, se fixaient sur lui avec une impitoyable immobilité. « Mais qui es-tu ? » demanda de nouveau involontairement la voix de l'Égyptien. « Je suis celui que la science a reconnu. » Et le spectre se mit à rire. « Mon nom est le destin. » « Et où me conduis-tu ? » ?»« À l'inconnu. » »« Au bonheur ou à l'affliction ?»« Ce que tu as semé, tu le moissonneras. » « Ô sombre créature, il ne doit pas en être ainsi. Si tu es le guide de la vie, mes crimes sont les tiens, non les miens. Je ne suis que le souffle de Dieu, » répondit le vent redoutable. « Alors ma science est vaine, » murmura le dormeur. Le laboureur accuse-t-il la destinée, lorsqu'après avoir semé les chardons, il ne récolte point de blé ? Tu as semé le crime. N'accuse pas le destin si tu ne recueilles pas la moisson de la vertu. » La scène changea soudain. Arbacès se trouva dans un cimetière rempli d'ossements humains, au milieu desquels on distinguait un crâne, qui, conservant toujours les cavités décharnées de ses yeux, prit peu à peu, dans la mystérieuse confusion du songe, la figure d'Apaïsides. De ses mâchoires entrouvertes sortit un petit ver qui se mit à ramper jusqu'au pied d'Arbacès. L'Égyptien essaya de mettre le pied dessus et de l'écraser, mais le ver devenait plus large et plus long à chaque effort tenté pour le détruire. Il s'agrandit et s'enfla si bien qu'il prit la forme d'un gros serpent qui se serra autour des membres d'Arbacès. Il lui broyait les os. Il élevait jusqu'à son visage ses yeux étincelants et ses dents empoisonnées. Arbacès luttait en vain contre lui. Il se flétrissait, il s'épuisait sous l'influence de la dégoûtante haleine du serpent. Il se sentait mourir. Alors le reptile, qui continuait à porter la figure d'Apaïsides, fit résonner ces mots à son oreille ivre de crainte. « Ta victime est ton juge. Le ver que tu as voulu écraser est devenu le serpent qui te dévore. » Arbacès se releva en poussant un cri de colère, de douleur et de résistance désespérée. Ses cheveux s'étaient dressés sur sa tête. Son front était baigné de sueur, ses yeux étaient fixes et égarés, tout son corps frissonnait comme celui d'un enfant sous la pénible impression de ce songe. Il s'éveilla donc. Il se recueillit, il remercia les dieux, dans lesquels il ne croyait pas, de ce que ce n'était qu'un songe. Il jeta les yeux autour de lui, il vit les rayons du jour naissant pénétrer à travers sa haute et étroite croisée. C'était le jour où il devait triompher. Il se réjouit, il sourit, mais en baissant les yeux, il aperçut à côté de lui la figure sépulcrale, les regards mornes, les lèvres livides de la sorcière du Vésuve. « Oh !» cria-t-il en posant ses mains sur ses yeux, comme pour fuir cette sombre vision. « Est-ce que je dors encore? Et suis-je toujours avec les morts ?»« Non, non, puissant Hermès, tu es avec l'image de la mort, mais non avec la mort. Reconnais ton ami et ton esclave. » Il y eut un long silence. Les frissons qui avaient passé sur les membres de l'Égyptien diminuèrent peu à peu. Il reprit son calme à la fin. « Mais c'était bien un songe, dit-il. Allons-y, n'y songeons plus, sans quoi les plaisirs du jour ne commenceraient pas les angoisses de la nuit. « Femme, comment es-tu venue ici et pourquoi ?»« Je suis venue pour t'avertir, » répondit la voix sépulcrale de la sorcière. « M'avertir ? Le songe ne mentait donc pas ? Et de quel péril ? Écoute-moi, quelques grands dangers menacent la cité. Fuis pendant qu'il en est temps. » Tu sais que j'habite cette montagne sur laquelle la vieille tradition a placé les feux du Phlégéton. Il y a dans ma caverne un vaste abîme où j'ai remarqué depuis peu un ruisseau rouge et sombre qui monte avec lenteur. J'ai entendu souvent des sons terribles sifflant et mugissant dans les ténèbres. La dernière nuit, j'ai voulu voir et j'ai vu que le ruisseau n'avait plus rien de sombre, qu'il était flamboyant, lumineux. Et pendant que je regardais, l'animal qui vit avec moi et qui tremblait à mon côté poussait de sourds gémissements, s'étendait sur le sol et mourait. Sa gueule était toute couverte d'écume. Alors je remontais dans ma tanière, mais j'entendis distinctement toute la nuit le roc craquer et s'entr'ouvrir. Et quoique l'air fût lourd et tranquille, le vent sifflait, il s'y mêlait comme un bruit de roue sur la terre. Lorsque je me suis levé ce matin à la naissance du jour, j'ai regardé de nouveau dans l'abîme et j'ai vu de nombreux fragments de pierres noires qui flottaient sur le courant, plus larges, plus terribles, plus rouges encore que pendant la nuit. Alors je suis sorti. J'ai monté sur une vaste crevasse que je n'avais pas encore remarquée, d'où s'élevait une obscure et légère fumée. Cette vapeur était mortelle. Je sentis une défaillance, comme si j'allais mourir. Je suis revenu chez moi, j'ai pris mon or et mes drogues. J'ai quitté cette demeure où j'ai passé tant d'années, car je me suis souvenu de cette prédiction étrusque qui dit « Lorsque la montagne s'ouvrira, la cité tombera. Lorsque la fumée couronnera les sommets des champs brûlés, les enfants de la mer connaîtront le malheur et les larmes. Maître suprême, avant de quitter ces murs pour quelque asile éloigné, je viens à toi. Je suis assuré, comme de mon existence, que le tremblement de terre qui remue la cité il y a 60 ans, jusque dans ses bases, n'était que le précurseur d'une catastrophe plus terrible. Les murs de Pompéi ont été bâtis sur le domaine de la mort et sur les rives de l'enfer, qui ne connaît point de repos. Allez, te voilà averti, fuis ! Sorcière, je te remercie de l'intérêt que tu prends à un homme qui n'est pas ingrat. Sur cette table se trouve une coupe d'or. Prends-la, elle est à toi. Je ne croyais pas que les prêtres d'Isis exceptés, il y eut une personne vivante qui songea à sauver Arbacès de la destruction. Les signes que tu as vus dans le lit du volcan éteint continua l'Égyptien pensif, indique assurément quelque infiniment de imminent danger pour la cité, peut-être un tremblement de terre plus considérable que le premier. Quoi qu'il en puisse être, c'est une nouvelle raison pour moi de quitter ces murs. Demain, je partirai. Fille d'Étrurie, de quel côté te diriges-tu? Je me rendrai aujourd'hui à Herculanum, et le long de la côte, je chercherai une nouvelle demeure. Je reste sans amis, sans compagnons. Le renard et le serpent ne sont plus. Grand Hermès, tu m'as promis 20 années additionnelles d'existence. Oui, dit l'Égyptien, je te les ai promises. Mais, femme, ajouta-t-il en s'appuyant sur son bras et regardant sa figure avec curiosité, dis-moi, je t'en prie, pourquoi désires-tu vivre? Quelle douceur espères-tu découvrir dans la vie? Ce n'est pas la vie qui est douce, c'est la mort qui est terrible, répliqua la sorcière d'un ton brusque et pénétrant qui impressionna vivement le cœur de l'orgueilleux astrologue. Il frémit de la vérité de cette réponse et ne souhaitant pas retenir davantage son étrange visiteuse. Le temps passe, dit-il, je dois me préparer pour le solennel spectacle de ce jour. Adieu, ma sœur. Amuse-toi tant que tu pourras avec les cendres de cette vie. » La sorcière, qui avait déjà caché le précieux cadeau d'Arbacès dans les longs plis de ses vêtements, se leva pour partir. Lorsqu'elle eut atteint la porte, elle se retourna et dit « C'est peut-être le dernier instant que nous nous voyons sur la terre. » Mais où s'en va la flamme lorsqu'elle quitte les cendres? Errante de côté et d'autre, en haut, en bas, comme une exhalaison des marais, la flamme peut se retrouver sur les bords du lac inférieur. Et la sorcière et le mage, le disciple et le maître, celui qui est grand, celui qui est maudit, se rencontreront de nouveau. Adieu donc. Or d'ici, vieille corneille, murmura Arbacès, pendant que la porte se refermait sur les haillons de la sorcière. Et dans l'impatience de ses pensées, sans être encore tout à fait remis des frayeurs de son rêve, il appela ses esclaves. C'était la coutume d'assister aux solennités de l'amphithéâtre en habit de fête. Arbacès s'habilla ce jour-là avec plus de soin que d'habitude. Sa tunique était d'une éblouissante blancheur. Ses agrafes étaient composées des pierres les plus précieuses. Sur sa tunique flottait une large robe orientale qui servait en même temps de manteau et qui brillait les plus riches nuances de la pourpre tyrienne. Ses sandales, montant jusqu'à mi-jambe, étaient garnies de diamants et incrustées d'or. Un charlatanisme digne d'un vrai prêtre d'Isis l'engageait à ne négliger dans aucune grande occasion des artifices capables d'éblouir les yeux et d'imposer aux vulgaires. Ce jour-là, qui, par le sacrifice de Glaucus, devait le délivrer d'un rival et de la crainte d'être découvert, il lui sembla qu'il devait s'habiller pour un triomphe ou pour une fête nuptiale. Les personnages d'un certain rang ne manquaient pas de se faire accompagner au jeu de l'amphithéâtre par tout un cortège d'esclaves, d'affranchis, et la longue suite de la maisonnée d'Arbacès était déjà rangée en ordre autour de la litière. Seulement, à leur grand chagrin, les esclaves chargés de veiller sur Ionée et le digne sosie, comme geôlier de Nydia, se voyaient condamnés à demeurer à la maison. « Callias, dit Arbacès à part à son affranchi, pendant que celui-ci bouclait sa ceinture. « Je suis là, de bon pays. Je me propose de quitter cette ville dans 3 jours, si le vent nous est propice. Tu connais le vaisseau amarré dans le port et qui appartenait à Narcès d'Alexandrie. Je l'ai acheté. Après-demain, nous commencerons à y porter tout ce que je possède ici. Sitôt ? C'est bien. Arbacès sera obéi. Et sa pupille, Yonet, elle m'accompagne. Ah, c'est... La matinée est-elle belle? Oh, lourde et accablante, il fera probablement très chaud dans l'après-midi. Ha! Les pauvres gladiateurs et les pauvres criminels. Descends et vois si les esclaves sont prêts. Arbacès, resté seul, passa dans son cabinet d'études et de là sous le portique dehors. Il vit les longues files de gens qui se dirigeaient vers l'amphithéâtre. Il entendit leurs clameurs et le bruit des cordes au moyen desquelles on élevait la vaste toile, dont l'abri devait empêcher les citoyens d'être incommodés par les rayons du soleil et leur permettrait de jouir à leur aise de l'agonie de leurs semblables. Un son étrange traversa tout à coup les airs et se tut presque aussitôt. C'était le rugissement du lion. Il se fit un grand silence dans la foule, mais ce silence fut suivi d'un immense éclat de rire. La foule était heureuse de l'impatience affamée du royal animal. « Bête féroce !» murmura Arbacès avec dédain. « Après cela, oh, sont-ils moins homicides que moi ? Mais moi, j'ai tué pour ma défense personnelle. Eux, ils font du meurtre à un passe-temps. » Il tourna alors un regard inquiet et curieux vers le Vésuve. Les vignes qui entouraient ses flancs brillaient au soleil et le front de la haute montagne paraissait, dans le repos des nues, tranquille comme l'éternité. Oh, nous avons encore du temps, si le tremblement de terre se dorlote doucement comme cela, pensa Arbacès, et il quitta ce lieu. Il passa près de la table où étaient posés ses papiers mystiques et ses calculs d'astrologie chaldéenne. « Ah, Auguste, se dit-il, je n'ai pas consulté les décrets depuis que j'ai surmonté le danger et la crise que tu m'avais prédit. À quoi bon ? Je sais désormais que tout dans ma route doit être brillant et aplani. Les événements passés ne l'ont-ils pas prouvé ? Arrière doute, arrière pitié. Ne réfléchis, ô mon cœur, ne réfléchis dans l'avenir que deux images, un empire et Yonet. » Chapitre 2 L'amphithéâtre. Nydia, rassurée par le récit de Sosie à son retour, et satisfaite que sa lettre eût été remise dans les mains de Salluste, conçut encore une espérance. Salluste ne perdrait probablement pas de temps, il courrait chez le prêteur, on visiterait la maison de l'Égyptien, on la délivrerait, on ouvrirait le cachot de Calénus, Glaucus serait libre cette nuit-là. Hélas, la nuit passa. L'aurore revint. Elle n'entendit rien que les pas empressés des esclaves le long de la salle et du péristyle et le bruit des apprêts pour aller voir le spectacle dont ils s'entretenaient. De temps à autre, la voix d'Arbacès donnant des ordres arrivait à son oreille. Une fanfare joyeuse se fit entendre. Le cortège se mettait en marche pour l'amphithéâtre. Tous étaient avides de repaître leurs yeux des dernières tortures de l'Athénien. Le cortège d'Arbacès s'avança lentement et avec solennité jusqu'à ce qu'il arrivât à l'endroit où il fallait que ceux qui venaient sur un char ou en litière descendissent pour marcher à pied. Arbacès sortit de sa litière et se dirigea vers l'endroit réservé aux personnes de distinction. Ses esclaves, se mêlant avec le reste de la multitude, furent placés par des employés qui reçurent leurs billets, comme cela se pratique à notre moderne opéra, dans la partie de l'amphithéâtre nommée le Popularium, disposée pour le vulgaire. Arbacès, de son siège, dominait la foule impatiente qui remplissait cet énorme théâtre. Les femmes étaient assises sur les gradins les plus hauts, et séparés des hommes. Leurs brillantes toilettes les faisaient ressembler à un parterre de fleurs. Il est superflu d'ajouter qu'elles formaient la partie la plus bruyante de l'assemblée. Beaucoup de regards se dirigeaient de leur côté, surtout des rangs des spectateurs jeunes et non mariés, qui avaient aussi leurs places à part. Les sièges les plus bas et ceux qui environnaient immédiatement la reine étaient occupés par les personnes les plus riches de la naissance, la plus illustre, magistrats, les sénateurs et les membres du corps équestre. Les passages qui, par des corridors à gauche et à droite, donnaient accès à ces sièges, aux deux extrémités de l'arène dessinées en ovale, étaient aussi l'entrée des combattants. De fortes palissades le long de ces passages empêchaient toute irrégularité excentrique dans les fantaisies des bêtes et les forçaient de se contenter de la proie qui leur était assignée. Autour du parapet qui se dressait au-dessus de l'arène, à l'endroit où les gradins commençaient, on voyait des inscriptions et des scènes gladiatoriales peintes à fresque, d'accord avec le genre de divertissement du lieu. Dans tout l'édifice serpentaient d'invisibles conduits, au moyen desquels, à mesure que le jour avançait, des ondées rafraîchissantes et odoriférantes étaient lancées dans l'air pour retomber en pluie sur les spectateurs. Les employés de l'amphithéâtre s'occupaient encore à tendre les velaria, vastes rideaux qui recouvraient tous les assistants et que les campaniens regardaient comme une invention de leur génie. Cette tenture était formée de la plus fine laine d'Apulie et ornée de larges raies cramoisies. Mais, soit que ce fût la faute des travailleurs, soit que les machines fussent en mauvais état, les toiles n'étaient pas rangées ce jour-là aussi bien que d'habitude. Il est vrai qu'à cause de l'étendue de la circonférence, c'était toujours une tâche difficile, de sorte qu'on n'essayait pas même d'y parvenir lorsqu'il faisait un grand vent. Mais ce jour-là, le temps était si calme que les spectateurs ne trouvaient pas d'excuses à la maladresse des employés, et lorsqu'ils virent une large ouverture provenant d'une partie des velaria qui s'obstinaient à ne pas se réunir à l'autre, ils exprimèrent hautement leur murmure. Le mécontentement était général. L'édile Pansa, qui donnait les jeux à ses frais, se montra particulièrement contrarié de cet accident. Il appela toutes les malédictions du ciel sur la tête du principal employé, qui, courant, soufflant, suant à grosses gouttes, s'épuisait en ordre et en menaces parfaitement inutiles. Le tumulte cessa tout à coup. Les ouvriers abandonnèrent leur travail, la foule s'apaisa, la malencontreuse ouverture fut oubliée, car une fanfare guerrière avait annoncé l'entrée des gladiateurs. Ils s'avancèrent dans l'arène en pompeux cortège. Ils firent lentement et avec fierté le tour de l'ovale, afin de procurer aux spectateurs le loisir d'admirer leur fermeté et de reconnaître leurs traits, leurs membres et leurs diverses armes, et pour leur donner le temps d'établir leur pari selon l'inspiration du moment. Oh ! Dit la veuve Fulvie à la femme de Pansa, pendant qu'elle s'inclinait sur leurs bancs élevés, voyez-vous ce gigantesque gladiateur ? Comme il est bizarrement habillé ! Oui ? Répondit la femme de l'édile avec une complaisante importance, car elle connaissait les noms et les qualités de chaque combattant. « Oui, c'est un Retiarius, un gladiateur au filet. Il n'est armé, comme vous le voyez, que d'une lance à trois pointes, une espèce de trident avec un filet. Pas d'armure, rien que le filet et la tunique. Non, c'est un homme vigoureux. Il doit combattre contre Sporus, cet épais gladiateur qui porte un bouclier rond et une épée, mais qui est aussi sans armure. Il n'a pas son casque maintenant, afin que vous puissiez distinguer ses traits. N'a-t-il pas un air terrible ? Il se battra tout à l'heure avec sa visière baissée. Mais un filet et une lance sont de faibles armes contre un bouclier et une épée. Oh, mais ce que vous dites là montre votre innocence, ma chère Fulvie. Le Retiarius est ordinairement le mieux partagé. Mais quel est ce beau gladiateur, presque nu ? Cela n'est guère convenable. Parvenus, mais que ses membres sont bien faits. C'est Lydon, un débutant. Oh, il a la témérité de combattre cet autre gladiateur aussi peu vêtu que lui, Tétraïdès. Ils combattront d'abord, selon la mode grecque, avec le ceste, puis avec l'armure, l'épée et le bouclier. C'est un charmant garçon que ce Lydon, et les femmes feront à coup sûr des vœux pour lui. Les parieurs expérimentés ne pensent pas comme elle. Claudius offre à son désavantage 3-1. Par Jupiter, que c'est beau! S'écria la veuve en admirant deux gladiateurs, armés de pied en cap, qui faisaient le tour de l'arène sur des coursiers légers et bondissants. Comme les combattants dans le tournoi du Moyen-Âge, ils portaient des lances et des boucliers ronds, ornés de belles incrustations. Leur armure était artistement faite de bandes de fer, mais elle ne couvrait que leurs cuisses et leurs bras droits. De courts manteaux, descendant jusqu'à leurs selles, donnaient à leur costume un air pittoresque et gracieux. Leurs jambes étaient nues, à l'exception des sandales attachées un peu au-dessous de la cheville. « Oh, que c'est beau! Mais qui sont-ils ? » demanda la veuve. « Ben, l'un d'eux a un nom Berbix. Il a vaincu 12 fois. L'autre se donne le nom arrogant de Nobilior. Ce sont deux Gaulois. » Pendant cette conversation, les premières formalités des jeux s'accomplirent. Alors eut lieu un combat simulé avec des épées de bois entre divers gladiateurs engagés 2-2. L'adresse de deux gladiateurs romains qu'on avait fait venir pour cette fête fut particulièrement admirée. Et après eux, le plus gracieux combattant fut Lydon. Cette petite guerre ne dura pas plus d'une heure et n'excita pas un très grand intérêt, excepté parmi les connaisseurs d'escrime, qui se plaisaient par-dessus tout à rendre justice à l'art. La masse des spectateurs en vit la fin avec plaisir. Les combattants se mirent en ordre par paires, ainsi qu'il était convenu d'avance. Les armes furent examinées, et les terribles amusements de la journée commencèrent au milieu du plus profond silence, interrompu seulement par les éclats préliminaires et excitants d'une musique guerrière. On commençait ordinairement les jeux par le plus cruel de tous. Quelques bestiarius ou gladiateurs condamnés aux bêtes étaient sacrifiés comme initiation. Mais dans cette occasion, l'édile Pansa montra bien son expérience. Il jugea à propos de conduire ce drame sanguinaire selon toutes les conditions de l'intérêt scénique. Il réserva l'exécution de Glaucus et d'Olynthus pour le dénouement. Il fut arrêté par les gladiateurs à cheval, parcourait d'abord l'arène, et que les gladiateurs à pied leur succéderaient ensuite, et qu'on verrait paraître ensuite Glaucus et le lion, et qu'enfin le tigre le Nazaréen terminerait le sanglant spectacle. Quant à ces jeux de l'amphithéâtre de Pompéi, le lecteur de l'histoire romaine doit modérer son imagination et ne pas s'attendre à trouver ici une de ces vastes et magnifiques exhibitions, hein, de ces grands carnages dont un Néron, un Caligula régalait les habitants de la cité impériale. Les jeux romains qui dévoraient les plus célèbres gladiateurs et un nombre si considérable de bêtes féroces faisaient justement que, dans les villes moins importantes de l'Empire, les amusements de l'amphithéâtre étaient rares et relativement humains. En cela, comme en beaucoup d'autres points, Pompéi n'était que la miniature, le microcosme de Rome. Cependant, c'était un terrible et imposant spectacle auquel les temps modernes n'ont rien heureusement à comparer, que ce vaste théâtre s'élevant gradin par gradin, peuplé d'êtres vivants au nombre de 15 à 18 000, qui ne contemplait pas les fictions tragiques de la scène, mais la victoire ou la défaite, la vie triomphante ou la mort ensanglantée de quiconque entrait dans l'arène. Les deux cavaliers se trouvaient alors à chacune des extrémités de la lice, si nous pouvons nous exprimer ainsi, et à un signal donné par Pansa, ils se précipitèrent simultanément l'un vers l'autre, comme s'ils allaient se briser du premier choc, chacun portant en avant son bouclier rond, chacun apprêtant sa haute et légère mais inflexible javeline. À trois pas de son adversaire, Berbix arrêta brusquement son cheval, se jeta de côté, et comme Nobilior, emporté dans sa course, continuait sa carrière, il dirigea contre lui sa javeline. Le bouclier de Nobilior, soudainement présenté avec beaucoup d'adresse, reçut le coup qui, sans cela, aurait été mortel. « Très bien, Nobilior !» s'écria le prêteur ordonnant au peuple le premier signal des applaudissements. « Bien frappé, mon Berbix !» répondit Claudius de son siège. Un murmure accompagné d'applaudissements parcourut tous les rangs de l'assemblée. Les visières des deux cavaliers étaient complètement baissées, comme plus tard celles des chevaliers. Mais la tête était néanmoins le but principal des attaques. Et Nobilior, chargeant à son tour son adversaire, dirigea avec non moins d'adresse que lui la pointe de son épée sur le casque de Berbix, qui leva son bouclier pour se couvrir. Mais son clairvoyant antagoniste changea promptement la direction de sa javeline et la baissant soudain l'atteignit à la poitrine. Berbix chancela et tomba. « Nobilior, Nobilior !» s'écria la populace. « J'ai perdu 17 sesterces, murmura Claudius entre ses dents. « Ah bête, il a son affaire !» dit Pansa froidement. La populace, qui n'était pas endurcie, fit le signal de grâce. Mais les employés de la reine, en s'approchant, virent que c'était de la pitié perdue. Le cœur du Gaulois avait été percé et ses yeux étaient fermés pour toujours. C'était le sang de sa vie qui teignait de noir le sable et la sciure de bois de la reine. « C'est dommage que le combat n'ait pas duré plus longtemps, » dit Fulvie. « Oh, ce n'est guère la peine de déranger les gens. » Bon, c'est vrai, je n'éprouve aucune pitié pour Berbix. Pourquoi n'a-t-il pas vu, comme tout le monde, la fin de Nobilior ? Attenez, voici qu'on attache le fatal crochet au corps. On va le conduire au spolarium. On remet notre sable sur la reine. Oh, pensant ne regrette rien, tant que n'êtes pas assez riche pour couvrir la reine de borax et de xyanvre, ainsi que le faisait Néron. « Ben, du moins, si le combat a été court, un autre le remplace, promptement. Voyez mon beau Lydon dans l'arène, et l'homme au filet également, et les autres avec leurs épées. Oh, c'est charmant !» Il y avait maintenant 6 combattants dans l'arène. Niger et son filet, en présence de Sporus, avec son bouclier et son petit sabre. Lydon et Tétraïdès, nus sauf une ceinture qui entourait leurs reins, chacun armé d'un lourd ceste grec, et 2 gladiateurs de Rome revêtus d'acier avec d'énormes boucliers et des épées pointues. La lutte au ceste entre Lydon et Tétraïdès étant moins redoutable que celle des autres combattants, ceux-ci, dès que les premiers se furent avancés dans l'arène, reculèrent un instant, comme par un consentement commun, afin de voir comment se terminerait ce premier assaut et d'attendre qu'il fît place à des armes plus terribles avant de commencer eux-mêmes les hostilités. Ils s'appuyèrent sur leurs armes, séparés les uns des autres, les yeux fixés sur le jeu, qui n'était pas assez sanglant pour satisfaire la populace, mais qui ne laissait pas néanmoins de l'intéresser, parce qu'il venait de la Grèce, le pays des ancêtres. Au premier coup d'œil, les deux antagonistes ne semblaient pas faits l'un pour l'autre. Tétraïdès, quoiqu'il ne fût pas plus grand que Lydon, était beaucoup plus gros. La force naturelle de ses muscles s'augmentait aux yeux du vulgaire, de l'épaisseur de sa chair, car on croyait généralement que l'embonpoint ne pouvait qu'être favorable au combat du ceste. Et Tetraïdès avait encouragé, autant qu'il avait pu, ses dispositions à engraisser. Ses épaules étaient fortes, ses membres inférieurs épais et légèrement arqués en dehors, son corps trapu de cette constitution, enfin, qui paraît donner en force tout ce qu'elle enlève en grâce. Mais Lydon, quoi qu'elle en sait jusqu'à friser la maigreur, était admirablement proportionné dans sa délicatesse. Les connaisseurs pouvaient s'apercevoir que ses muscles, moins gros que ceux de son adversaire, étaient plus compacts et, pour ainsi dire, de fer. En proportion aussi, il avait d'autant plus d'activité qu'il était moins chargé d'embonpoint et un hautain sourire sur sa figure résolue qui contrastait avec l'expression pesante et stupide de son adversaire, donnait confiance à ceux qui le regardaient et inspirait à la fois l'espérance et un sentiment de bienveillance. En sorte que, malgré la différence apparente de leurs forces, les souhaits de la multitude se rangeaient du côté de Lydon aussi bien que du côté de Tetraïdès. Quiconque a assisté à une lutte de nos jours, quiconque a pu apprécier les coups terribles que le poing d'un homme est capable de porter lorsqu'il est dirigé par l'art, peut se faire une idée de la facilité qui ajoutait une bande de cuir s'enlaçant autour du bras jusqu'au coude et renforcée aux jointures des doigts par une plaque de fer, quelquefois même par un morceau de plomb. Mais au lieu d'augmenter, comme on croyait, le fer par là, l'intérêt du combat, cette précaution le diminuait peut-être, car c'était en abréger la durée. Un petit nombre de coups savamment portés suffisait pour terminer le combat, de sorte que les adversaires n'avaient presque jamais le temps de déployer cette énergie, ce courage et cette persévérance enragée que nous autres Anglais nous appelons plaque en termes techniques, qui souvent ôte la victoire à la science et donne à un jeu l'intérêt d'une bataille et appelle sur le brave toutes nos sympathies. « En garde !» s'écria Tetraïdès en s'approchant de plus en plus près de son adversaire, qui tournait autour de lui beaucoup plus qu'il ne reculait. Lydon ne répondit que par un regard où son œil prompt et vigilant avait mis tout son dédain. Tetraïdès frappa comme un forgeron sur un étau. Lydon posa un genou à terre, le coup passa sur sa tête, et sa revanche ne fut pas si inoffensive. Il se releva sur le champ et lança son ceste en pleine poitrine à son adversaire. Tetraïdès fut étourdi. La populace fit éclater ses applaudissements. Ah, vous n'êtes pas heureux aujourd'hui, dit Lépidus à Clodius. Vous avez perdu à Paris, vous allez en perdre un autre. Par les dieux, si cela est, mes bronzes iront chez l'huissier priseur. Je n'ai pas engagé moins de 100 sesterces sur Tetraïdès. Voyez comme il se remet. Ah, voilà un maître coup. Il vient de fendre l'épaule de Lydon. Bravo, Tetraïdès, bravo, Tetraïdès. Mais Lydon ne s'émeut pas. Par Pollux, il conserve son sang-froid. Voyez comme il évite avec adresse ses mains pareilles à des marteaux, se penchant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et tournant avec agilité. Ah, le pauvre Lydon, il est atteint de nouveau. 3-1 en faveur de Tetraïdès, s'écria Glonius. Qu'en dites-vous, Lépidus? Bon, c'est entendu, 9 sesterces contre 3. Quoi? Ah, Lydon reprend de nouveau. Il respire. Par les dieux, oh, il est à terre. Mais non, le voilà sur ses jambes. Brave Lydon! Tetraïdès est encouragé. Il rit tout haut. Il se précipite sur lui. Le fou, le succès l'aveugle, il devrait être plus prudent. L'œil de Lydon est comme celui d'un lynx, dit Clodius entre ses dents. Ah, Clodius, voyez-vous, Votre homme chancelle, encore un coup, il tombe, il est tombé. La terre le ranime alors, car le voilà encore debout, mais le sang coule sur son visage. Par le maître de la foudre, Lido triomphe. Voyez comme il presse son adversaire. Ce coup sur la tempe aurait renversé un bœuf. Il a écrasé Tétraïdès, qui tombe de nouveau. Il peut plus se ramener. Habet, Habet. Habet, se répéta Pansard, qu'on les emmène et qu'on leur donne les armures et les épées. Noble éditeur, disent les employés, nous craignons que Tétraïdès ne soit pas remis à temps. Du reste, nous essaierons. Faites. Quelques minutes après, les employés qui avaient emporté le gladiateur tombé et insensible reviennent avec un air déconcerté. Ils craignaient pour la vie de Tétraïdès. Il était impossible de reparaître dans l'arène. Dans ce cas, dit Pansa, gardez Lydon comme subdit Titius. Il remplacera le premier gladiateur vaincu contre le vainqueur. Le peuple applaudit à cette sentence. Le silence recommença. Les fantasmes éclatèrent de nouveau. Les quatre combattants se préparèrent fidèlement à se mesurer en se regardant en face. Reconnaissez-vous les Romains, cher Claudius ? Sont-ils des gladiateurs célèbres ou des gladiateurs ordinaires ? Memolpus est une lame de seconde classe. Lepidus, pour Nepimus, le plus petit des deux, je ne l'ai jamais vu. Mais il est fils d'un des fils Calès d'Impériaux, il a été élevé à la bonne école. Mais je n'ai plus de cœur au jeu. Je ne regagnerai jamais l'argent que j'ai perdu. Je suis ruiné. Maudit soit ce Lydon. Qui aurait pu lui supposer tant d'adresse et tant de bonheur? Voyons, Claudius, j'aurais compassion de vous et j'accepte votre pari sur ces deux Romains. Bon, alors, 10 sesterces sur Eumolpus. Quoi, lorsque l'épibus est un débutant? Oh, le marché n'est pas tenable. 8 alors. Bon, c'est convenu. Et pendant que ces luttes étaient ainsi commencées, il y avait sur les gradins les plus élevés un spectateur qui avait pris à ces jeux un douloureux intérêt. Le vieux père de Lydon, en dépit de son horreur chrétienne pour ce genre de spectacle, dans son anxiété pour son fils, n'avait pu résister au désir d'être spectateur de sa destinée. Caché dans une foule d'étrangers de la plus basse classe de la populace, le vieillard ne sentait, ne voyait rien que la présence de son brave fils. Pas un mot ne s'était échappé de ses lèvres lorsqu'il l'avait vu deux fois tomber à terre. Il était seulement devenu plus pâle et ses lèvres avaient tremblé. Mais il avait jeté un cri de joie lorsque la victoire s'était déclarée pour son fils, sans prévoir, hélas, que cette victoire n'était que le prélude d'une bataille plus terrible. « Mon brave fils, » dit-il, et il essuya ses yeux. « Est-ce ton fils ?» demanda un homme placé à la droite du Nazaréen. « Oh, il a bien combattu. Ah, nous allons voir comment il se comportera tout à l'heure. »« Ah non, tu n'as pas entendu. Il combattra le premier vainqueur. »« Maintenant, pauvre vieillard, priez Dieu que le vainqueur ne soit aucun des deux Romains. » Ni après eux, le géant Niger. Le vieillard se rassit et se couvrit le visage. Il resta indifférent au nouveau combat. Lydon n'y figurait pas. Cependant, une pensée traversa son esprit. Ce combat avait pour lui un grand intérêt. Le premier qui succomberait ne serait-il pas remplacé par Lydon? Il tressaillit. Et le corps penché, les yeux tout grands ouverts et les mains jointes, il suivit les mouvements des gladiateurs. Niger et Sporus occupèrent particulièrement l'attention du public. car cette espèce de combat, à cause de son résultat ordinairement fatal et de la grande science qu'il exigeait de la part des deux adversaires, était fort estimé des spectateurs. Les deux gladiateurs se tenaient à une distance considérable l'un de l'autre. Le singulier casque que portait Sporus avait sa visière baissée et lui cachait le visage. Mais les traits de Niger à découvert attiraient tous les regards. Leur férocité vigilante et contenue possédait une terrible puissance d'attraction. Après être demeuré quelque temps à se surveiller, Sporus commença à s'avancer lentement et avec une précaution extrême, tenant la pointe de son épée dirigée contre la poitrine de son ennemi, comme dans l'escrime moderne. Niger reculait à mesure que son adversaire avançait, rassemblant son filet dans sa main droite, et sans détacher un instant un œil petit et étincelant des mouvements de son adversaire, et tout à coup, dès que Sporus se fut approché à la portée de son bras, le Rétiarius se jeta en avant et lança son filet. Une prompte inflexion du corps sauva le gladiateur du piège redouté. Il poussa un cri aigu de joie et de rage et se précipita sur Niger. Mais Niger avait déjà retiré son filet, qu'il avait jeté sur ses épaules, et il courait autour de la reine avec une rapidité que le sécouteur essayait vainement d'égaler. Le peuple rit et applaudit beaucoup en voyant les impuissants efforts du gladiateur aux larges épaules pour rejoindre le géant qui fuyait devant lui. Mais dans ce moment, l'attention se tourna du côté des deux combattants romains. Ils étaient placés d'abord face à face, à la distance où on se met de nos jours pour un assaut d'armes. Mais la prudente lenteur qu'ils mettaient à commencer un sérieux engagement avait laissé aux spectateurs le temps de s'intéresser à Sporus et à Niger. Les deux Romains en étaient venus aux mains avec toute l'ardeur désirable. Leur fureur était portée au plus haut degré. Ils s'attaquaient, se défendaient, avançaient, reculaient avec ces précautions scrupuleuses et presque imperceptibles qui caractérisent deux hommes expérimentés et d'une force égale. Eumolpus, le plus vieux des gladiateurs, par un habile coup de seconde qu'on regardait dans l'arène comme très difficile à éviter, venait de blesser Lépimus au côté. Le peuple applaudit, Lépimus devint pâle. « Bon, dit Claudius, c'est une affaire finie. Molpus n'a plus maintenant qu'à ferrailler tout doucement et à laisser l'autre perdre peu à peu tout son sang. « Oui, mais grâce au Dieu, il ne se modère pas. Voyez comme il presse Lépimus. Par Mars, oh, Lépimus l'a touché. » Le casque a résonné de nouveau. Claudius, je gagnerai. Mais c'est une faute, je devrais parier qu'au jeu de dés, se dit Claudius à lui-même. Pourquoi ne peut-on pas piper un gladiateur? Bravo Sporus, bravo Sporus, cria la populace, en s'apercevant que Niger, qui s'était arrêté, avait une seconde fois lancé son filet en vain. Il ne s'était pas enfui cette fois avec assez d'agilité, et l'épée de Sporus lui avait entaillé la jambe droite d'une façon assez grave. Ne pouvant plus fuir, il était pressé par son féroce adversaire. Sa grande taille et la longueur de son bras continuaient néanmoins à lui donner d'assez grands avantages. Et présentant son trident au front de son ennemi, il le força à reculer plusieurs fois. Sporus essaya alors de le surprendre en tournant avec une grande agilité autour de lui. Niger, blessé, ne pouvait lui faire face qu'avec une certaine lenteur. Mais Sporus se laissa emporter et s'avança trop près du géant. Il leva son bras pour le frapper et les trois pointes du trident entrèrent au même instant dans sa poitrine. Sporus tomba sur un genou. Le fatal filet l'enveloppa sur le champ. Il essaya en vain de se débarrasser de ses mailles. Les coups répétés du trident l'accablèrent. Son sang coula à flots à travers le filet et rougit le sable. Il croisa les bras en signe de défaite. Le Rétiarius, triomphant, retira le filet et s'appuyant sur son trident, consulta l'assemblée du regard pour savoir son jugement. Le gladiateur vaincu roula aussi, lui, ses yeux à demi voilés et pleins d'angoisse, autour du théâtre, de rang en rang, de banc en banc. On le contemplait sans témoigner la moindre pitié, la moindre émotion. Les murmures, les clameurs avaient cessé. Le silence était terrible, car il n'indiquait aucune sympathie. Pas une main, pas même une main de femme, ne donna le signal de la miséricorde et de la vie. Sporus n'avait jamais été populaire dans l'arène. Un moment auparavant, la blessure de Niger avait même excité l'intérêt. Le peuple était échauffé par la vue du sang. Les combats simulés ne lui suffisaient plus. L'intérêt s'était élevé jusqu'au désir de l'immolation, à la soif de la mort. Le gladiateur comprit que sa destinée était décidée. Il ne proféra aucun soupir, aucune prière. Le peuple donna le signal de la mort. Sporus, avec une soumission où la souffrance le disputait au courage, inclina la tête pour recevoir le coup fatal. Mais comme le trident du Rétiarius n'était pas une arme convenable pour infliger une mort certaine et instantanée, une forme effrayante et sinistre, brandissant une épée courte à la lame effilée, entra dans l'arène, les traits entièrement cachés sous sa visière baissée. D'un pas mesuré et solennel, ce funèbre exécuteur s'approcha du gladiateur à genoux, plaça la main gauche sur sa tête humiliée, posa le tranchant du glaive en travers de son cou et interrogea des yeux l'assemblée afin de s'assurer qu'aucun remords ne l'avait saisi en ce dernier moment. Le terrible signal ne fut pas changé, et le glaive brillant dans l'air tomba et le gladiateur roula sur le sable. Ses membres s'agitèrent convulsivement, puis rien ne bougea plus dans tout son être. Ce n'était plus qu'un cadavre. Son corps fut traîné hors de l'arène par la porte de la mort et jeté dans l'obscure cellule qu'on appelait le spoliarium. Avant qu'il eût atteint sa destination, la lutte entre les deux autres combattants était aussi terminée. L'épée de Molpus avait porté une blessure mortelle à son adversaire, moins expérimenté que lui. Une nouvelle victime s'ajouta au réceptacle du carnage. Un mouvement universel agita la nombreuse assemblée. Le peuple respirait plus à l'aise et chacun se replaçait commodément sur son siège. Une pluie agréable fut lancée par les conduits pour rafraîchir les spectateurs. Chacun disait son mot pendant cette bienfaisante rosée sur le spectacle sanglant qui venait d'avoir lieu. Molpus ôta son casque et essuya son front. Ses cheveux bouclés, sa courte barbe, ses nobles traits romains et son œil brillant et noir conquirent l'admiration générale. Il était dispos, sans blessure, il ne paraissait pas fatigué. L'éditeur s'arrêta et proclama tout haut que la blessure de Niger l'empêchait de rentrer dans l'arène. Lydon devait succéder à Népimus qui venait d'être tué et combattre à son tour Molpus. Cependant, Lydon, ajouta-t-il, si tu veux décliner le combat avec un homme si brave et si éprouvé, tu en as le droit. Molpus n'est pas l'adversaire qui t'était destiné dans l'origine. Tu sais mieux que personne si tu es en état de te mesurer avec lui. Si tu succombes, ce ne sera pas sans gloire. Si tu triomphes, je doublerai de ma propre bourse le prix stipulé pour toi. Le peuple fit éclater de grands applaudissements. Lydon se tenait dans la lice. Il jeta les yeux autour de lui. Il aperçut au loin, sur les hauts gradins, la figure pâle, les yeux fixes de son vieux père. Il demeura irrésolu un moment. Non, la victoire du CES n'était pas suffisante. Il n'avait pas encore remporté le prix qu'il voulait. Son père était encore esclave. « Noble édile, dit-il d'un ton ferme, je ne recule pas devant ce combat. Pour l'honneur de Pompéi, je demande qu'un homme instruit par son célèbre laniste combatte le Romain. » Les applaudissements du peuple devinrent plus vifs. « 4 contre 1 pour l'autre, dit Claudius à Lépidus. Bon, je n'accepterai pas 20 contre 1. Un Molpus est un véritable Achille, et ce pauvre garçon n'est qu'un tyran. » Le Molpus regarda attentivement Lydon et sourit. Cependant, ce sourire fut suivi d'un léger soupir à peine entendu. Mouvement de compassion étouffé dans le cœur au moment où il s'y faisait sentir. Tous deux alors, revêtus d'armure, l'épée tirée, la visière baissée, derniers combattants de la reine, avant que les hommes fussent livrés aux bêtes, se mirent en face l'un de l'autre. Dans ce moment, un des employés de la reine remit une lettre au prêteur, qui en retira l'enveloppe et parcourut l'écrit des yeux. Ses traits exprimèrent la surprise et l'embarras. Il lut de nouveau la lettre et murmura « Allons, c'est impossible. Il fallait que cet homme fût ivre dès le matin pour écrire de pareille folie. » Il mit la lettre de côté et se replaça lui-même dans l'attitude convenable pour suivre le nouveau combat. L'intérêt du public était vivant excité. Le Molpus était d'abord concilié la faveur générale, mais l'intrépidité de Lydon et son heureuse allusion à l'honneur du Lanista de Pompéi avaient bien disposé pour lui tous les cœurs. « Eh bien, vieux camarade, dit le voisin de Médon, du pauvre père, voilà votre fils bravement engagé de nouveau, mais ne craignez rien. L'éditeur ne permettra pas qu'on le tue, ni le peuple non plus. » Il s'est comporté noblement. Ah, voilà un fameux coup. Bien paré par Pollux. La riposte, Lydon. Ils s'arrêtèrent pour respirer. Qu'est-ce que vous murmurez donc, vieux père? Des prières, répondit Médon avec plus de calme et un maintien qui indiquait plus d'assurance. Des prières, bagatelles, les temps ne sont plus où les dieux dérobaient les hommes dans un nuage. Ah, Jupiter, quel coup! Ton côté, prends garde à ton côté, Lydon! Une crainte convulsive avait fait frémir l'assemblée. Un terrible coup de Molpus, porté sur la tête de Lydon, l'avait fait tomber sur le genou. Habet, cria une petite voix de femme, il en a! C'était la voix de la jeune fille qui avait désiré si vivement qu'on trouvât des criminels pour les bêtes. « Silence !» dit la femme de Pansa avec autorité. « Non, Abet, il n'est pas blessé. »« Mais je voudrais qu'il le fût !» s'écria la jeune fille. « Car ça ne serait que pour causer de la peine à ce vieux grognon de Médon. » Pendant ce temps-là, Lydon, qui s'était défendu jusqu'alors avec autant d'habileté que de valeur, commença à reculer devant les vigoureuses attaques du Romain expérimenté. Son bras était fatigué, ses yeux étaient obscurcis, il respirait avec peine. Les combattants s'arrêtèrent pour reprendre haleine. « Jeune homme, dit Molpus à voix basse, cède. Je te blesserai légèrement, tu baisseras les bras. Tu as acquis la sympathie de l'éditeur et du peuple, tu seras honorablement sauvé. Et mon père restera esclave ? Murmura Lydon. Non, la mort ou sa liberté. À cette pensée, voyant que ses forces n'égaleraient pas la persévérance du Romain, et que la victoire dépendait pour lui d'un effort soudain et désespéré, il s'élança sur Eumolpus. Le Romain rompit aussitôt. Lydon essaya une nouvelle attaque. Eumolpus se jeta de côté. L'épée n'atteignit que la cuirasse. La poitrine de Lydon se trouva exposée. Le Romain plongea dans le défaut de la cuirasse, sans avoir néanmoins le dessein de porter une blessure mortelle. Lydon, faible et épuisé, tomba en avant sur la pointe même de son adversaire et fut percé d'outre en outre. Eumolpus retira la lame. Lydon tâcha de regagner son équilibre. Son épée tomba de sa main qui, désarmée, alla frapper seule son adversaire et il roula sur l'arène. L'éditeur et l'assemblée, d'un commun accord, firent le signal de grâce. Les employés de l'amphithéâtre s'approchèrent. Ils ôtèrent le casque du vaincu. Il respirait encore. Ses yeux étaient fixés d'un air farouche sur son ennemi. La férocité qu'il avait puisée dans sa profession était empreinte sur son front déjà obscurci par les ombres de la mort. Alors, avec un soupir convulsif, et en essayant de se relever, il tourna les yeux vers les hauts gradins. Ils ne s'arrêtèrent pas sur l'éditeur ni sur les juges bienveillants. Ils ne les voyaient pas. Tout cet immense amphithéâtre semblait vide pour lui. Il ne reconnut qu'une figure pâle et pleine de douleur. Le cri d'un cœur brisé au milieu des applaudissements de la populace fut tout ce qu'on entendit. L'expression féroce de sa physionomie s'effaça. Une expression plus douce de tendresse filiale et désespérée se peignit sur ses beaux traits puis s'évanouit. Sa figure prit un air farouche, ses membres se roidirent, il retomba à terre. Qu'on prenne soin de lui, dit l'édile, il a fait son devoir. Les employés le portèrent au spoliarium. Un vrai type de la gloire et de ce qu'elle vaut, murmura Arbacès en lui-même. Et son œil, parcourant l'amphithéâtre, révélait tant de dédain et de mépris que toutes les personnes qui rencontraient ses regards éprouvaient une étrange émotion. Leur respiration se suspendait, leur sang se glaçait d'effroi et de respect. Des parfums délicieux furent répandus dans l'arène. Les employés renouvelèrent le sable. « Qu'on introduise le lion et Glaucus l'Athénien, » dit l'éditeur. Un silence profond, indiquant la puissance où la terrette était parvenue, une terreur intense, et cela est étrange à dire, mais elle n'était pas dépourvue de charme, régnèrent dans l'assemblée qui semblait sous l'empire d'un rêve terrible.